Art, Culture et Patrimoine.
Une émission présentée par Christelle de Limerville.
Se nourrir, s'habiller, se meubler, comment faisait-on toutes nos courses autrefois ? Du Moyen-Âge à la Révolution, de la Révolution industrielle aux années 60 et des années 60 à nos jours, nous allons découvrir l'histoire de 1000 ans de commerce à Laval grâce au passionnant travail réalisé par Amélie de Cercey-Granger du service patrimoine et médiation de la ville de Laval. Je suis heureuse de vous recevoir. Bonjour Amélie.
Bonjour Christelle.
Alors votre travail s'intitule...
Des petites échoppes médiévales aux grandes zones commerciales du 21e siècle, zoom sur 1000 ans de commerce à Laval.
Ça a dû être un gros travail. Et pourquoi avez-vous effectué toutes ces recherches ?
Alors, la ville de Laval s'apprête à fêter bientôt ses 1000 ans d'histoire, donc une histoire très riche. Et l'idée, eh bien, c'était d'aborder ces 1000 ans à travers un prisme qui peut parler à tout le monde, qui intéresse tout le monde, à savoir celui du commerce, d'avoir une réflexion en pleine période où on évoque Amazon, le retour au commerce de proximité, la mise en valeur des centres-villes. Eh bien, l'idée, c'était aussi de faire un état des lieux de ces commerces depuis 1000 ans. Comment est-ce que finalement... On revient à nos origines, on revient au début, et si ce n'était pas un éternel recommencement.
Et je rappelle aussi que ce travail fera l'objet d'une publication, nous en reparlerons en fin d'émission, mais qu'on pourra se procurer, qui pourra intéresser tous les Lavallois et même les Mayennais.
Tout à fait.
Alors on commence par le Moyen-Âge.
Exactement. Donc en fait, dès les premiers siècles d'existence de la ville de Laval, donc qui est fondée vers 1020-1030, on s'aperçoit que le commerce va se développer rapidement autour du château qui est un lieu de pouvoir. Donc l'idée, c'est de s'enrichir tout en étant protégé. Ces habitants du bourg s'appellent les bourgeois et parmi ces bourgeois, on a notre premier commerçant lavallois qui est mentionné dès 1070. Il s'agit du boucher Hildradus. Alors c'est le premier commerçant connu qui est mentionné dans un acte qui est assez amusant quelque part puisqu'il évoque l'expropriation des maisons pour la construction de l'église de la Trinité, future cathédrale.
Oh là là, oui.
Eh oui. Donc, Hildradus est mentionné comme étant carnifex, donc c'est le terme qui désigne le boucher au Moyen-Âge, celui qui abat, débite et vend de la viande. Au-delà du simple aspect nourriture, en fait, le boucher avait un rôle fondamental à cette époque-là, puisqu'il fournissait l'essentiel des matières premières qui étaient nécessaires à l'éclairage, puisque la graisse des porcs servait à fabriquer les chandelles, à l'habillement grâce au cuir, à l'harnachement des chevaux. Donc ce boucher, finalement, Hildradus, avait une place de choix dans la ville médiévale.
Et est-ce qu'on sait si la boucherie vendait de la viande de porc essentiellement ou c'était aussi des ovins, des
beaucoup
des
de bœufs. Ovins, caprins, ça c'était beaucoup.
Et...
Ouais. En fait, l'idée, c'est que les archéologues ont retrouvé des fosses d'aisance, notamment au niveau de Saint-Ugal. Et donc, ils analysent ce qu'ils retrouvent dans ces fosses d'aisance. Et donc, on a pu découvrir que c'était beaucoup d'ovins, de caprins, qui étaient l'essentiel de la nourriture carnée des Lavallois à cette époque-là. Même si on mangeait effectivement un petit peu de porc, notamment, ça on le sait grâce au calendrier qu'on retrouve à Prisou à Saint-Martin, où en mois de décembre, eh bien, on a l'abattage du porc et donc ça constitue aussi une grosse partie de l'alimentation en viande des Lavallois tout au long de l'année. Donc les commerces vont continuer à se développer tout au long du Moyen-Âge. On va choisir des lieux stratégiques pour installer ces commerces, près d'un pont, le long d'un axe routier majeur, comme la Grande Rue, qui finalement fait partie de la grande route commerciale qui relie le bassin parisien à la Bretagne. On a aussi des choses un petit peu curieuses, comme au niveau du Vieux Pont, puisqu'on sait que le Vieux Pont, au XVIIIe siècle, comptait 11 boutiques, ni plus ni moins. C'était un pont habité, et il y avait notamment la boutique d'un apothicaire. Alors, tous ces commerces, eh bien, se situent dans des maisons à pans de bois, qui sont à la fois des lieux de travail et de résidence, contrairement à aujourd'hui, hein, au Moyen-Âge, on travaille et on habite au même endroit. Et donc, le rez-de-chaussée de la maison était en fait l'échoppe. Et elle était directement ouverte sur la rue. On ne rentrait pas dans le magasin. Et c'est ce qui donne d'ailleurs l'expression « trier sur le volet ». Puisque les gens, du coup, triaient leurs marchandises sur les planches qui étaient disposées devant les échoppes.
Très bien.
Alors du coup, parmi ces échoppes, eh bien, je vais me permettre de citer une historienne locale, Jocelyne Blouski, pour vous plonger un petit peu dans l'atmosphère de Laval à la fin du Moyen-Âge et pendant les temps modernes. Il faut imaginer un joyeux bazar dans ces rues, comme la rue du Pont de Mayenne ou la Grande Rue notamment, avec des nippes de fripiers, les odeurs des petits pâtés du rôtisseur, des tas de rubans, de chapeaux, l'odeur forte du cuir que dégageait le caroleur de souliers, mais on a aussi les fioles du barbier et de l'apothicaire et les produits rares et extraordinaires de l'épicier. Donc quelque chose qui était très varié et très très dynamique.
Très parfumé.
Très parfumé, voilà, beaucoup d'odeurs. Eh bien, les gens ne sachant pas lire, on n'avait pas boucherie écrite en grandes lettres comme on peut l'avoir par exemple aujourd'hui. Elles étaient reconnaissables grâce à une enseigne. Donc, par exemple, on sait que les apothicaires pouvaient utiliser une enseigne de leur choix. Et Guillaume Jarry, en 1755, choisit une galère. Alors, faut pas imaginer l'embarcation, mais plutôt un long fourneau en briques réfractaires dans lequel on pouvait faire chauffer plusieurs vases à la fois. Parce que ça montre bien que la profession d'apothicaire n'était pas uniquement destinée à vendre des médicaments, mais fallait aussi les fabriquer, oui, ces médicaments. Et nous sommes donc au tout début de la chimie, qui est la forme à cette époque-là la plus moderne de la pharmacie. Et donc, ça montre vraiment cette volonté de dynamisme et d'être au plus proche des dernières recherches scientifiques d'un Lavallois au XVIIIe siècle. Et ça aussi, c'est important à noter.
C'était son enseigne alors, la galère.
C'était son enseigne, l'enseigne qu'il avait choisie, ouais, pour son échoppe. Ouais. Dans l'imaginaire collectif, hein, l'apothicaire, c'est la fiole avec toutes les bulles autour de la fiole, puisqu'il va faire chauffer tous ses produits chimiques. Ces échoppes aussi, elles sont reconnaissables, et ça on le voit encore aujourd'hui quand on se promène dans le centre historique, par des grandes baies commerciales qui forment une sorte d'anse de panier, qui montre vraiment ce lien entre la boutique et la rue. Alors, ça, c'est quelque chose de fondamental, et ces baies commerciales, elles sont encore visibles, notamment rue Renaise ou rue des Orfèvres. On en a encore donc ces grandes ouvertures en anse de panier.
Comme des grandes baies vitrées maintenant, pour des vitrines en fait.
Voilà, voilà, c'est ça. Alors, tous ces commerces, en fait, sont réglementés. On n'y fait pas ce qu'on veut. Déjà, il y a un classement géographique quelque part. Les professions que l'on considère comme les plus viles, à savoir les bouchers. Alors, si le Dradus était au centre de la ville au XIe siècle, ça ne va plus être le cas à la fin du Moyen-Âge. On va rejeter les bouchers à l'extérieur de la ville parce qu'ils tuent des animaux, ça fait du bruit. Il y a du sang, il y a des odeurs, parce que les grandes chambres froides n'existent pas à cette époque-là. Donc, on n'en veut pas à l'intérieur de la ville, on les rejette. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a encore une rue des Bouchers aujourd'hui, à proximité de la rue Bernard Lepec. L'artisanat de qualité, quant à lui, a le droit d'être au cœur de la ville. Et c'est pour ça qu'on a encore aujourd'hui rue des Serruriers, à proximité de la Porte Bécheresse, et aussi la rue des Orfèvres. Alors, sachant que la corporation des Orfèvres Lavallois était extrêmement renommée et on trouvait leurs produits jusqu'à la cour du roi à Versailles. Et oui, et du coup, les professions, elles sont organisées en corporations. Donc, on a des règlements qui fixent plusieurs choses, les conditions de travail, les horaires de travail ou encore le prix et la qualité des produits. À chaque fois, on est souvent aussi rattaché à un saint patron, comme les cordonniers qui sont regroupés dans la confrérie Saint-Crépin-Saint-Crépinien, patron à la fois des gantiers, des cordonniers, des bourreliers et des tanneurs. Alors, eux, leurs statuts sont accordés par le seigneur de Laval en 1489. On a des statues avec des petites curiosités aussi qui paraissent aujourd'hui un petit peu décalées. Par exemple, les poissonniers ont leur règlement qui a été édicté en 1567 et ils doivent au prévôt de la ville de Laval la tête du plus gros saumon qui devait être apporté après Noël en dédommagement de la peine que se donne le prévôt pour percevoir la taxe auprès d'eux.
Oh, le pauvre.
Oui, on va le plaindre. Hein. Et toujours par rapport à ces poissonniers, une autre anecdote, c'est que le seigneur de Laval et le seigneur de la Coconnière, eh bien, avaient le droit d'acheter leurs poissons en premier. Donc, c'est eux qui choisissaient. Et évidemment, on suppose qu'ils pouvaient choisir les plus beaux.
Bah,
et il restait que les moins beaux pour les autres Lavallois. Alors, il y a aussi des règlements qui peuvent nous paraître assez avant-gardistes pour l'époque, qui aujourd'hui nous paraissent élémentaires, mais à l'époque, ça devait être peut-être plus étrange. Concernant les cabaretiers, donc les cabaretiers, c'est les cafés, bars, tabacs d'aujourd'hui pratiquement. Et eux, ils devaient fermer les dimanches et jours de fête, plus pendant le passage des processions religieuses, mais surtout, ils avaient interdiction de servir à boire à des enfants de moins de 15 ans. Et en cas de dommage qui aurait été fait par ces enfants, eh bien, ils seraient déclarés responsables donc des bêtises faites par ces jeunes qui auraient bu dans son cabaret.
Mais déjà, la protection des mineurs.
Exactement. Et enfin, un dernier statut, je trouve, avec une anecdote assez intéressante. On revient toujours à nos bouchers. Leur statut date de 1686 et il est stipulé qu'un boucher ne peut exercer qu'après avoir présenté un certificat de médecin constatant qu'il est sain, qu'il n'est atteint ni du mal caduc, qu'on désignait alors aujourd'hui sur le nom d'épilepsie, ni de la lèpre, ni d'aucune autre maladie de peau. Il ne faut pas dégoûter les clients. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est assez amusant et anecdotique.
Oui, 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 on se protégeait déjà de virus ou de
Exactement.
Maladies éventuelles.
Tout à fait.
Tout ceci est passionnant. Voilà, on découvre. Je suis toujours avec Amélie de Cercet. Alors, nous faisons une pause musicale et nous allons reprendre. Et là, nous allons plutôt parler...
Du commerce ambulant.
Du commerce ambulant. Toujours d'Amélie de Cercet-Granger du service patrimoine et médiation de la ville de Laval. Et elle nous raconte, c'est tout à fait passionnant, l'histoire du commerce, 1000 ans de commerce à Laval. Nous en étions donc au Moyen-Âge jusqu'à la Révolution à peu près. Et là, après les boutiques et les échoppes, vous allez nous parler des marchés, des halles, une autre forme de commerce.
Tout à fait. En fait, la vie de la cité était rythmée à côté de ces échoppes par le commerce ambulant et notamment par les foires. Donc, c'était quelque chose vraiment de très important. C'était des grands, grands rendez-vous où toute la population lavalloise, mais aussi celle des alentours, se retrouvait. Alors, au XVIIIe siècle, à Laval, il y a 5 grandes foires annuelles qui étaient souvent liées à des fêtes religieuses et qui se déroulaient surtout à la fin de l'été, qui montrent vraiment cette fonction agricole de la foire au Moyen-Âge et pendant les temps modernes. La première foire de l'année a lieu le 20 mars, mais ça peut aussi être le mardi qui suit la mi-carême. Alors cette foire, elle va exister jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale et on y vendra essentiellement des bestiaux, des grains ou encore du fil. Une autre qui n'a pas forcément laissé son nom, c'est une foire qui se déroulait le 25 avril ou le dernier mercredi d'avril, où là encore on vendait bestiaux, grains et fil. Ensuite, on en avait une le 19 juin ou le mardi d'avant la Saint-Jean-Baptiste. Toujours la même chose, vente de bestiaux, grains et fil. Le 9 septembre a lieu la 4e grande foire. Alors le 9 septembre, on est la Saint-Gorgon, mais on est surtout le lendemain de la fête de la Nativité de la Vierge. Alors cette foire, on l'appelle l'Angevine. Donc aujourd'hui, tout le monde connaît la fête foraine des Angevines. Là, c'est la foire de l'Angevine, qui doit durer 2 jours francs. Et en France, elle a d'ailleurs longtemps porté le nom de Notre-Dame-Angevine, en souvenir d'une apparition de la Vierge Marie à Saint-Maurille, qui était évêque d'Angers en 430, près de Saint-Florent-le-Vieil, pour lui demander d'instituer cette fameuse fête de la Nativité de la Vierge. C'est vraiment une des foires les plus anciennes de Laval, hein, la foire de l'Angevine. Elle existait au moins depuis 1444, mais très probablement depuis probablement le 13e, 12e siècle.
C'est étonnant.
C'est
hein.
La plus ancienne, ah, ouais. Oui. Et la dernière a lieu le 31 octobre où on vendait des pots de cuir. Alors toutes ces foires se déroulaient essentiellement au niveau de la place du Gard dans un espace qui était rapidement saturé et dont les abords étaient souvent envahis de boue et de bouse. Donc on imagine des odeurs pas forcément très agréables, d'autant plus qu'il y avait un marché aux chevaux en haut de la rue d'Avenières.
Alors, oh là là, qu'est-ce que ça devait être vivant, tout ça.
Ah, ça devait être très pittoresque. Alors, comme l'espace n'était pas forcément très grand, on va chercher un nouvel espace au XVIIIe siècle, un espace qui est en cours d'aménagement, à savoir la place Hardy de Lévaré. Donc, on va installer sur cette place des musiciens, des marionnettes, des chiens savants, des danseurs de cordes, des comédiens. On joue aux boules, aux quilles, on mange des galettes, on boit du cidre. C'est vraiment une grande fête populaire. Mmh. C'est l'occasion d'acheter, mais c'est surtout l'occasion de se retrouver. Alors, le reste de l'année, eh bien, les Lavallois et les habitants de la campagne environnante peuvent se rendre aussi au marché. Donc, depuis les origines de Laval, il y a eu 2 marchés. Un qui était dans la basse-cour, donc qui existe toujours finalement dans la basse-cour du château, puisque ça correspond aux actuelles places des Acacias et de la Trémoille. Et un autre qui était au pied de la porte Renaise. Ça, c'était à l'origine. Ensuite, il y a un 3e marché qui est créé au XIIIe siècle, extramuros cette fois, au niveau de l'actuelle rue du Marchy. Donc, pas très loin de l'hôtel Perrier du Bignon, pour vous resituer à peu près, pas très loin de l'ancien évêché. Et donc, ce marché va être brûlé par les Anglais au cours de la guerre de Cent Ans. Et ça va être un vrai traumatisme. Et c'est la raison pour laquelle, après la guerre de Cent Ans, il va être rapatrié à l'intérieur. Et on va construire des halles au niveau de l'actuelle place des Acacias. Donc, ces halles qui n'existent plus aujourd'hui. Donc, il y avait un marché au blé. Donc ça, c'était fondamental puisque le blé désigne tous les céréales et c'est vraiment la base de l'alimentation des gens à cette époque-là. On le mange sous forme de galettes, de bouillies, de pain, donc marché au blé. Marché au port, place Hardy de Lévaré, et un grand marché qui allait de la place au blé, donc qui est l'actuelle place de la Trémoille, jusqu'à la rue Renaise, où on pouvait acheter des volailles, des pots, des paniers, de la quincaillerie, de la vieillerie, des baumes, des élixirs, des fromages, de la faïence, enfin un peu de tout.
Oui, tout
un
tout
supermarché
besoin,
en plein air, quoi. Voilà.
Ah oui.
Exactement. Puisqu'on parle justement d'ailleurs d'ancêtres du supermarché, on vient de l'évoquer rapidement. Il y avait aussi ces halles. Les halles, c'est un marché couvert. La grande halle et la petite halle, qui étaient au cœur du centre historique, qui étaient des halles polyvalentes à dominante alimentaire. Alors, il ne faut pas s'imaginer le côté un petit peu aseptisé des supermarchés actuels, hein, ou bien au contraire, elles étaient faites de bois, elles étaient très sombres, très humides. On imagine que ce bois n'était pas forcément très solide, ça avait un côté un petit peu branlant. Et puis, comme on n'a pas ces moyens de réfrigérer qu'on connaît aujourd'hui, il y avait l'odeur un petit peu violente des viandes et de la marée qui pouvaient en ressortir. Et ça ne devait pas être très agréable. Et d'ailleurs, cette odeur détestable de poisson a entraîné la construction d'une autre halle, qui est la halle aux poissons. Elle se trouvait, pour vous situer à peu près, entre l'actuel hôtel de ville et la fontaine qui se trouve au centre de la place du 11 novembre.
C'était à l'extérieur
C'était à l'extérieur, voilà. Comme pour les bouchers, l'idée, c'est vraiment de rejeter ces mauvaises odeurs et ce côté pas forcément très hygiénique. Oui. À l'extérieur de la ville. Alors, il y a 14 emplacements qui sont aménagés dans cette grande halle circulaire. Sauf qu'en fait, c'est un vrai fiasco commercial parce qu'on est à l'extérieur de la ville. Mmh. Donc, on est loin des points de vente préférés des Lavallois. Du coup, personne ne va s'installer à cet endroit-là. Donc, ça n'a vraiment, vraiment pas marché, malgré des obligations qui ont été mises en place, comme l'interdiction de débiter des marchandises, des poissons, autrement dit, ailleurs que dans cette nouvelle poissonnerie. Ça a d'ailleurs disparu très rapidement après la Révolution française. Presque un siècle plus tard, elles vont revenir pas très loin de cet endroit-là, puisqu'il y a les grandes halles qui vont être construites à la fin du 19e siècle. Mais en attendant, non, c'est pas un endroit qu'on aime beaucoup pour le commerce.
Quels étaient les produits vraiment caractéristiques, les manufactures caractéristiques de Laval ou de la Mayenne ?
Alors, Laval devait sa richesse à cette époque-là grâce à deux produits phares qui étaient exportés dans tout le Grand Ouest. Le premier, c'est la céramique qui était produite dans le site périurbain de Saint-Pierre-le-Potier à partir du XIIIe siècle et peut-être même avant, parce que les éléments favorables au développement de ce commerce s'y trouvaient. On a un sous-sol qui est riche en argile de qualité. On a du bois grâce au bois gamin pour alimenter les fours, la rivière comme moyen de transport pour descendre jusqu'en Anjou et la proximité de Laval qui est alors un centre urbain en plein essor. Donc toutes ces céramiques dont l'activité est surveillée, voire même contrôlée par le seigneur du bois gamin, eh bien va être exportée dans une région très très large, jusque en Normandie, voire même en Auvergne. Alors, trois produits phares en céramique. Le mortier à œil de perdrix, qui va être produit du XIIIe au XVe siècle, utilisé pour préparer les galettes, les bouillies. On n'oublie pas que les céréales, c'est quelque chose de fondamental dans l'alimentation. On va aussi avoir ce qu'on appelle les lèches frites. Donc, placées sous la broche à rôtir, ces lèches frites servent à recueillir le jus des viandes. Et le dernier élément, c'est les coquemards, qu'on un usage funéraire, hein, puisqu'on avait l'habitude de les mettre dans les tombes, mais qui servait aussi à faire bouillir le lait. Donc c'est vraiment quelque chose de très important que la production de la céramique lavalloise.
Alors coquemard, ça se présente comment ? C'est un pot avec un couvercle ?
C'est un petit pot avec une panse, donc les bords un petit peu arrondis, un bec verseur, une anse, c'est on ne peut plus classique.
Et il y a une anse quand même, comme une petite cruche alors.
Oui, tout à fait.
Ah, très bien. Et on peut en voir où d'ailleurs des coquemards ?
Alors, de temps en temps, nous, on en expose en fonction des thématiques. Il y en a peut-être au CIAP de Sainte-Suzanne, je pense, d'avoir d'exposer là-bas.
Ouais, c'est amusant à savoir. Ouais. Et puis, vous disiez donc le lin.
Et surtout, effectivement, la toile de lin. Alors, la toile de lin, elle est tissée dans notre région depuis l'Antiquité, mais elle va vraiment prendre un essor au XIIIe siècle, à l'époque où le baron de Laval va épouser Béatrix de Gavre, qui est une princesse flamande. Et les Flandres, à cette époque-là, c'est vraiment la région essentielle de production textile. Donc, on peut supposer qu'avec son mariage, Béatrix va amener avec elle des ouvriers qui vont apprendre aux Lavallois à perfectionner leur technique de tissage et ça va permettre vraiment à la ville de produire plus, donc de vendre plus. Et c'est une toile de lin de qualité puisqu'on la retrouve dans les contes de la reine Isabeau de Bavière, la femme du roi Charles VI, en 1401. Donc c'est quelque chose, là encore, qui va faire la renommée de la ville de Laval. Alors ces toiles de lin vont être surtout utilisées pour les voiles des bateaux. Il ne faut pas oublier qu'à partir du XVIe siècle, on est dans une période d'expansion maritime, c'est la période des grandes découverte, donc on construit beaucoup de bateaux et on va utiliser les toiles de lin lavalloises pour ces bateaux, ces voiles. Donc ça va permettre vraiment l'enrichissement de beaucoup de marchands lavallois qui vont par la suite se faire construire des demeures à la hauteur de leur enrichissement. On pense notamment à la maison du Grand Veneur en haut de la Grande Rue, à l'hôtel de Bel Air dans le quartier éponyme ou encore à l'hôtel Perrier du Vignon. Donc c'est la richesse de la ville de Laval au XVIIIe siècle grâce à ce commerce de la toile de lin.
Eh bien, vous nous faites découvrir tout un monde, c'est passionnant. Et nous nous retrouverons dans quelques temps, Amélie de Cercé-Granger, pour continuer cette histoire du commerce à Laval. Je sais que vous voulez faire un appel à la radio pour vos travaux qui continuent sur vos travaux de recherche. Alors, ce serait...
Tout à fait. Donc, en fait, le service patrimoine médiation va sortir une publication au mois de juin qui va être consacré cette fois à 50 ans de commerce, 1950-2000, donc 50 ans de commerce à Laval. Et dans ce cadre, eh ben, nous sommes à la recherche de vos témoignages, de vos anecdotes, de votre ressenti, enfin voilà, de tout ce que vous avez envie d'exprimer concernant cette période, mais aussi si vous avez des photos d'un commerce en particulier, eh bien nous sommes preneurs pour alimenter cette publication et éventuellement une exposition qui aura lieu aussi au mois de juin sur les grilles du Jardin de la Périne. Merci
à
vous.
Très bien, bon, ben, l'appel est lancé et puis on peut toujours se mettre en lien avec la radio. Merci Amélie et à très bientôt.
Merci à vous.